Merci nos chantres pour ce moment béni. Et je vous bénis aussi, mes frères et sœurs, que la grâce et la paix, la joie de Dieu soient sur nous tous ce matin. Amen. Et que sa parole puisse venir toucher nos cœurs aussi. Alors on va poursuivre sur ce thème que j'ai déjà initié il y a quelques semaines, sur l'Église selon le cœur de Dieu, cette Église biblique, tirée des Actes, hein, d'une étude des Actes, et plus largement de la parole de Dieu, puisque l'Église, elle n'est pas restreinte aux Actes, hein, et elle est présente dans l'ensemble de la parole, y compris dans l'Ancien Testament, y compris dans les Épîtres, y compris dans les Évangiles. Parce que cette Église, c'est le corps de Christ. Et Christ, il irradie l'ensemble de la parole de Dieu. Alors, on a vu ensemble que cette Église, selon le cœur de Dieu, la semaine dernière, deux caractéristiques, c'est qu'elle était centrée sur Jésus-Christ, Christ au centre. Et puis c'était une église qui était remplie du Saint-Esprit. C'était une église qui était envoyée par le Saint-Esprit, qui était présent et tellement présent que finalement cette église, elle a explosé en très peu de temps, en nombre. Et aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on continue à explorer ce modèle et qu'on voit deux autres caractéristiques. C'était une église qui était fraternelle, c'était une église qui était unie. Donc je veux qu'on appuie vraiment sur cette notion de communion fraternelle. Et puis c'était aussi une église qui était envoyée, c'était une église qui était en mission. Alors je dis « était », je parle un peu au passé, mais non. En fait, ces choses sont toujours valables aujourd'hui et ce doit être un modèle, une inspiration pour nous. Et ces caractéristiques, je pense qu'elles sont vraiment essentielles parce que ce que Dieu veut pour son Église, c'est ce cœur battant de Dieu pour son Église, c'est ce désir qu'on soit conforme à cette volonté, tous ensemble. Et ce premier pilier, l'Église fraternelle, en fait, elle concerne notre relation les uns avec les autres. Là, on parle de l'Église au sens ecclésia, vraiment, cette Église où on est les uns avec les autres. Et puis, il y a un autre aspect, l'Église missionnaire, c'est notre relation avec le monde, notre relation avec l'extérieur. Elles sont importantes, ces deux caractéristiques, du coup, parce qu'elles ne s'opposent pas, mais elles sont vraiment complémentaires. L'Église comme une famille, l'Église unie, l'Église solidaire, finalement, ça touche notre manière de vivre en tant que famille de Dieu. Et puis, l'autre aspect, l'Église missionnaire, ça touche notre manière de vivre en tant qu'ambassadeur du royaume. Et ces deux aspects ne peuvent pas être dissociés, elles ne s'opposent pas. Ça se complète. Et on prie vraiment que dans notre vie chrétienne, ce soit équilibré et qu'on agisse vraiment conformément à ce que Dieu veut pour nous, à l'appel qu'on a chacun et chacune dans cette vie à laquelle Dieu nous appelle. Parce qu'une église qui s'aime, S'AIME, on pourrait aussi faire l'autre. C'est une église qui attire. Une église qui s'aime, c'est une église qui attire. Une église dans laquelle les membres s'aiment, c'est une église qui va attirer. Et puis une église qui est envoyée, une église qui s'ouvre vers l'extérieur, c'est une église qui va influencer. C'est une église qui a une vocation, Et cette vocation, ben, c'est de refléter Christ vers l'extérieur, dans des sphères qui ne sont pas nos sphères purement ecclésiales, entre nos quatre murs. Cette notion d'influence, influencer pour que le Saint-Esprit, lui, ensuite, convainque. Ce n'est pas notre rôle de convaincre. Ça, c'est le Saint-Esprit. Notre rôle, c'est d'influencer en tant qu'Église. Alors, ce matin, ouvrons et demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles. Seigneur, nous voulons vraiment que ta parole qui va être déclarée, qui va être proclamée, Seigneur, puisse produire un effet dans nos cœurs. Seigneur, qu'il y ait une révélation toute nouvelle qui puisse venir et que chacun puisse trouver, Seigneur, une graine qui puisse être semée dans son cœur et qui vienne porter du fruit dans l'appel qu'il a, Seigneur, pour ta gloire. Alors, on va aborder le premier point, et le premier point donc, de cette église fraternelle. Il y a quelque chose qui est frappant hein, dans le livre des Actes et qui frappait les gens en fait qui voyaient cette église naissante. Bah, c'est l'amour qui unissait les croyants. Ça c'est frappant et ça et vraiment ça ressort très fort. C'était une église qui était une vraie communauté fraternelle qui était unie par quelque chose qui est beaucoup plus fort que le sang ou des intérêts communs. Parce que souvent, vous savez, une famille, c'est uni par le sang. Une association, par exemple, c'est uni par des intérêts communs. On défend quelque chose, on est uni de cette façon-là. Et bien, en fait, l'Église, elle était unie par la vie du Christ en chacun. C'est ça qui les unissait. C'est parce que Christ était le centre, Christ était la pierre angulaire. Eh bien, il y avait cette vie qui coulait en chacun, qui coulait au milieu d'eux, et c'était ça qui était vraiment là, qui créait cette réalité d'unité. Et on va aller dans la parole tout de suite, dans Acte 2, à partir du verset 42, et on a une magnifique image de ce qu'était cette église fraternelle. Donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Et on continue. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Quel témoignage! Quel témoignage on trouve dans ces quelques versets où on voit que l'Église, ce n'était pas une institution qui était froide. Vous voyez, ce n'était pas une institution, une association religieuse, c'était beaucoup plus que ça. C'était juste une famille. C'était juste une famille. C'était pas plus. Et dans ce passage, ça doit être au verset 43, où il est dit « la crainte s'emparait de chacun ». Ce mot « crainte », il m'a interpellé. Parce qu'il y a des choses magnifiques qui sont dites dans ce passage, dans ces versets. Et puis, hein, la crainte s'emparait de chacun. Alors, Seigneur, c'est curieux. Il y a une vie qui coule, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Il y a des prodiges, il y a des miracles. Il y a une simplicité de cœur et il y a une crainte. Et en fait, j'ai été regarder. Crainte dans la Bible, hein, c'est phobos en grec. Et en fait, ça signifie bien frayeur, peur. Il y a ce sens-là. Mais il y a un autre sens caché, qui est une notion de respect. Et c'est encore plus précis que ça. Le mot phobos, ça veut dire aussi révérence envers son mari. La révérence envers son mari. Alors je me suis dit que l'épouse de Christ, qui est l'Église, qui est finalement cette église qui était en train de naître, et bien elle vit dans un profond respect. Il y a une profonde révérence envers ce Jésus-Christ qui est l'époux de cette église, qui est en train de la bâtir, lui la pierre angulaire. Et on en revient un peu à mon premier point que j'avais développé la semaine dernière sur l'église qui était Jésus qui était au centre. Cette église qui était centrée sur Jésus, ben c'est ça, la crainte qui s'emparait de chacun, c'était cette profonde révérence que l'église de l'époque avait pour lui, ce profond respect. Et c'est ça qui permettait que le Saint-Esprit agisse avec force et avec puissance à cette époque. Alors cette fraternité, c'est vraiment le reflet du cœur de Dieu. Et c'est pas que à partir des actes qu'on voit ça, c'est pas que à ce moment-là, dans l'Ancien Testament, c'était déjà le cas. Dieu y révélait déjà son désir de voir son peuple finalement vivre dans la solidarité, vivre dans l'amour fraternel. Il y a ce psaume magnifique, le psaume 133, qui dit « Voici, ô, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'était déjà le cœur de Dieu. L'unité, la paix, l'amour entre frères et sœurs, c'est la joie de Dieu. Et c'est ce qu'il attend de son peuple. Que quand Dieu donne la loi à Israël, il insiste aussi sur cette attention envers les faibles, envers les veuves, envers les orphelins, envers les étrangers. Mais pourquoi ? Parce que le peuple, et on peut faire un parallèle avec l'Église aujourd'hui, bah il devait refléter le caractère de Dieu dans sa manière de vivre ensemble. Dans sa manière de vivre ensemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous est déjà dit dans le Lévitique, au chapitre 19, au verset 18. Et Deutéronome nous dit « Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. » Donc l'Église d'aujourd'hui, elle doit incarner. Elle doit incarner ça aussi, cette même culture du royaume. C'est l'amour, c'est l'accueil, c'est la bienveillance, c'est la patience, pour citer presque tous les fruits de l'esprit de Galates. Et cette Église naissante, selon le cœur de Dieu finalement, elle brise toutes les barrières humaines. Il y a une unité, c'est vrai, mais ils sont tous différents. C'est vrai qu'il y a une diversité dans cette église. Il y a des juifs, il y a des païens, il y a des riches, il y a des pauvres, des esclaves, des libres, et ils forment un seul corps. Et Paul, il insiste même. C'est dans Galates 3, versets 26 à 28. « Vous tous, en effet, vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Et cette unité, ça ne veut pas dire qu'il y a une uniformité. Ça ne veut pas dire qu'on se fond tous dans une espèce de même moule. Mais il y a une harmonie dans la diversité. Et l'apôtre Paul le dit aussi dans Romains 12, à partir du verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Il y a une unité, mais il n'y a pas d'uniformité. On est tous différents. On est tous différents, mais on a tous quelque chose à apporter au corps de Christ. Il y a cet exemple concret dans Actes 13, au verset 1. À Antioche, vous voyez, l'église, elle rassemblait Barnabas. Barnabas, c'était un lévite. Elle rassemblait Siméon, c'était un Africain. Elle rassemblait Lucius, c'était un gars de Cyrène. Elle rassemblait Manaen, qui était un aristocrate. Et puis même Saul, qui était un ancien pharisien. Et l'Esprit vient transcender ces différences parce que c'est Christ qui vient unir tout le monde. Et Jésus, il n'a pas simplement recommandé l'amour entre frères et sœurs. Il en a même fait le signe distinctif de ses disciples. C'est vraiment ça qui doit distinguer l'Église. L'amour fraternel. Je vous donne un commandement nouveau, nous dit Jésus dans Jean 13. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. On ne peut pas être reconnu en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, si on n'a pas d'amour les uns pour les autres. C'est Jésus qui le dit, hein. C'est lui qui prononce ces paroles. C'est ça la marque de l'Église véritable. C'est pas le bâtiment, c'est pas la doctrine. C'est pas je ne sais quelle théorie. Non, c'est l'amour. Et c'est l'amour vécu. C'est un amour qui n'est pas qu'en parole. Ça ne se limite pas à un sentiment. Jean va le dire dans une de ses épîtres, ça doit être suivi d'actions concrètes. Dans 1 Jean 3, verset 16, il nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. En action et avec vérité. Une église fraternelle, c'est une église où chacun est prêt à se donner pour l'autre, où les besoins sont entendus, où les besoins sont pris en charge, où la solitude n'a pas sa place, où chacun sait qu'il appartient à une famille. Chacun sait qu'il appartient à une famille, à cette famille. On se pose toujours, mais comment je peux agir ? Mais il y a des choses qui sont tellement simples. Et pardon Seigneur, parce que parfois elles sont tellement simples que je ne les vois pas. Quand quelqu'un manque un dimanche, j'ai fait attention, mais j'ai pas. Est-ce que j'ai pris mon téléphone pour prendre des nouvelles ? Est-ce que je fais ça ? Est-ce que j'ai cette attention systématique envers mon frère, envers ma sœur ? Briser l'isolement, ça c'est le cœur de l'Église. L'Église était une Église fraternelle, c'était une Église unie, c'était une Église solidaire. Comment on peut accepter qu'il y ait des personnes isolées et seules dans des Églises ? Pas possible. Partager, ouvrir nos maisons, partager nos repas, partager. Mais les premiers chrétiens, ils ne se réunissaient pas dans un bâtiment sacré, hein. Ils se réunissaient dans les maisons. Ils partageaient leurs maisons. On doit faire aussi de nos foyers des lieux de communion fraternels. Je bénis Marie et Romain. C'était formidable vendredi. Et puis on doit porter les fardeaux des uns et des autres. Galates 6,2 nous dit « Portez les fardeaux les uns et les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Prions les uns pour les autres, aidons-nous les uns les autres. » Et puis un autre aspect aussi. La grâce. Est-ce qu'on peut éviter les critiques sur tel et tel point ? Est-ce qu'on ne peut pas choisir la grâce ? Est-ce qu'une église fraternelle, ce n'est pas une église qui pardonne ? Est-ce que l'église fraternelle, ce n'est pas une église qui couvre les fautes, qui croit en la restauration des relations, qui croit qu'il y a un pardon qui est possible. Est-ce que, Seigneur, ce matin, il n'y a pas pour quelqu'un un pardon à relâcher ? Est-ce qu'il n'y a pas un frère ou une sœur avec qui tu es brouillé ? Est-ce que le Saint-Esprit ne te presse pas de lui dire, de venir le voir et de lui dire « Je te demande pardon » ou « Je te pardonne » ? Il ne faut pas oublier que le monde, il nous regarde. Et ce qu'il cherche, c'est une communauté qui est différente. Ce qu'il cherche, c'est une famille, une église où il fait bon vivre, où on est bien ensemble. Mais où cet amour, il est réel, où il est concret. Sinon, à quoi bon ? À quoi bon ? Frères et sœurs, on a vraiment besoin de l'assistance du Saint-Esprit. On a besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour qu'il nous montre, pour qu'il vienne pointer des choses. On a lu ta parole, Seigneur, on a lu ces versets. On ne veut pas simplement que ça reste à l'état de surface, mais que, Seigneur, ça vienne dans nos cœurs et que ça vienne nous parler. Oui, Seigneur, une église, c'est une église qui s'aime. On a de l'amour les uns pour les autres, mais c'est aussi une église qui doit semer, Seigneur, des graines de ta parole dans nos cœurs, comme ça a pu être aussi proclamé ce matin. Où ces graines, elles viennent germer, elles viennent produire du fruit. Viens, Seigneur, viens nous montrer comment je peux mieux aimer mon frère et ma sœur. Comment je peux mieux entrer en relation avec lui. Comment je peux découvrir ses besoins. Comment je peux découvrir, Seigneur, quels sont ses besoins. Comment je peux prier pour lui. Montre-nous ces choses, Seigneur. Montre-nous ces choses parce que une église biblique, c'est pas qu'un entre-soi finalement. C'est aussi une église qui est envoyée. Oui, c'est une église qui est centrée sur Christ, c'est une église qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une église fraternelle et puis finalement, c'est une église qui doit regarder vers l'extérieur. C'est une église envoyée, c'est une église en mission, c'est une église qui est appelée à porter la lumière du Christ dans un monde qui est brisé. Ce monde est brisé. Alors l'église, elle ne peut pas être un simple refuge. Oui, c'est un refuge. Qu'il est bon d'être ensemble. Mais ça doit être aussi, cette église, un camp d'entraînement pour des disciples missionnaires. C'est pas que le but, c'est pas de simplement nourrir les croyants, même si c'est évidemment tellement important, mais c'est aussi d'atteindre les perdus. C'est la grande commission, c'est l'ADN de l'Église. C'est Jésus lui-même, avant de repartir, qui dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette belle promesse, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul, on est entre nous, mais on a Jésus avec nous. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et cette mission, finalement, c'est le cœur de Dieu depuis toujours. Depuis toujours. Dès l'Ancien Testament, on voit que Dieu, il n'a jamais voulu garder son salut pour un seul peuple, pour Israël. Au contraire, il a appelé Israël à être une lumière pour les nations. C'est Ésaïe qui nous le révèle dans Ésaïe 49 au verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous voyez, Ésaïe, il annonce un peuple lumière des nations. Et c'est une promesse qui est accomplie en Jésus-Christ. Dans l'évangile de Luc, on voit quand Marie et Joseph amènent Jésus au temple pour accomplir la circoncision, vous avez Siméon, ce juif pieux qui est là, qui prend Jésus dans ses bras et qui dit « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » C'est merveilleux. C'est merveilleux d'être les héritiers de ça. D'être cette église de Jésus-Christ qui a la mission d'éclairer aussi les nations qui sont devant nous. Et elles sont juste à la sortie, là, juste après le palier. C'est pas si loin que ça. Et il y a cette merveilleuse promesse aussi que Dieu fait à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On peut lire ça de manière très générale, mais on peut aussi recibler. Dieu a choisi Israël, puis a choisi l'Église, corps de Christ, non pour l'exclure du reste du monde, mais pour que par lui, par Christ, toutes les familles de la terre soient bénies. Et combien de familles autour de nous ont besoin d'être bénies? Combien de familles brisées, disloquées par le divorce, par la violence, par des addictions, par tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, la maladie, la dépression. Ben, ces familles, elles sont là. Elles sont là devant nos paliers, elles sont là devant nos portails de maison. Elles sont là dans notre travail. Oui, ces familles, elles ont besoin de cette lumière, elles ont besoin de notre soutien, de nos prières, qu'on se tienne à la brèche pour intercéder, pour qu'elles soient restaurées. Et je demande pardon au Seigneur de ne pas toujours les voir, ces familles. Ou si, je les vois, mais... Est-ce que j'obéis? Est-ce que j'obéis? Ces familles disloquées, ces familles qui sont... Et je pourrais même vous donner un témoignage. C'est que j'en ai une dans mon quartier de famille disloquée. Totalement disloquée, dysfonctionnelle. Un papa cocaïnomane. Une maman qui essaie de s'en sortir tant bien que mal avec ses enfants, ses trois enfants, dont une de l'âge de Romy qui va à l'école avec elle, qui est dans sa classe. Et j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que c'est pesant. Parce qu'ils sont en demande continuellement et que parfois ça perturbe notre quotidien. Parfois, on aimerait être tranquille, et puis ça vient sonner, parce que les enfants ont envie de s'évader, ont envie de s'aérer, et puis qu'on avait prévu autre chose, et puis qu'on a même imaginé déménager parce que c'était trop lourd. Et le Seigneur n'a pas permis que ça arrive. La maison qu'on convoitait, on ne l'a pas eue. Parce que le Seigneur, il a un plan pour cette famille. Il veut qu'on continue à briller dans ce quartier pour eux. Ces familles, elles ont besoin de notre soutien. Oui, elles ont besoin de nos prières. Elles ont besoin qu'on soit présent. Et même si on leur a déjà parlé de Jésus, et même si ça leur passe au-dessus, Et même si parfois on est découragé, mais on ne peut rien faire. Si tu peux encore influencer, tu peux encore porter cette lumière. Et ce sera au boulot du Saint-Esprit de convaincre, de se révéler à eux. Parce que Dieu, il a un plan de salut aussi pour eux. Il a un plan de salut qui réserve à toutes les familles qui sont autour de nous. Ce n'est pas réservé qu'aux membres de l'Église, c'est réservé à ceux qui sont aussi dehors. Dieu veut sauver. Et Dieu veut qu'on entretienne des relations avec ses familles. À l'exemple de l'apôtre Paul qui dira à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 10 au verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu, de la même manière que moi aussi. » Je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Le plan de Dieu, c'est que ceux qu'il a mis sur notre chemin soient sauvés. Jésus, quand il dit « Faites de toutes les nations des disciples », mais finalement, il met un point d'honneur à ce qu'on comprenne bien ça. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Aimez-vous les uns les autres. Ça commence déjà par ça. Si on s'aime les uns les autres et si on aime ceux qui sont dehors, on fera des nations des disciples. On fera de ces familles des disciples. Le livre des Actes, il ne raconte pas l'histoire d'une église assise. Non, il raconte l'histoire d'une église qui est en mouvement, d'une église qui est en mission, d'une église qui est en expansion. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit, il est donné non pas pour que l'église, elle ait simplement une expérience intérieure, mais pour qu'elle devienne un témoin puissant. Un témoin puissant de cet amour. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole de Jésus, elle trace une carte. Vous voyez cette carte ? Vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est une carte locale. Dans mon quartier, dans mon travail, dans ma ville. Dans toute la Judée, c'est une carte régionale. Dans la Samarie, c'est même les peuples qu'on n'a pas forcément envie de croiser, qu'on n'a pas forcément envie de voir, avec qui on ne s'entend pas bien. Et jusqu'aux extrémités de la terre, au niveau international, mondial. L'Église doit sortir de ses murs. Et dans les Actes, c'est ce qui se passe. Pierre y prêche, Paul y voyage. Philippe y court vers l'eunuque. Barnabas, il encourage. Vous voyez, cette église, elle va prier, elle va jeûner, et puis elle va envoyer, elle va annoncer. Et le modèle, il est clair. C'est que chaque croyant est un missionnaire. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à quelques spécialistes. D'ailleurs, chaque église locale, dans l'église primitive, c'était une base d'envoi. Chaque chrétien, chaque croyant, c'est un ambassadeur. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous dit Paul dans 2 Corinthiens. Nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Nous sommes ces ambassadeurs du royaume. Et pour ça, il faut être réconcilié avec Dieu. Le ministère de la réconciliation nous a donné Jésus. Si on est réconcilié avec Dieu, si oui, même dans nos afflictions, même dans nos épreuves, même dans nos circonstances défavorables, si même dans ces moments-là, on croit en un Dieu fidèle, on croit en un Dieu qui nous soutient, qui est là avec nous, qu'on est réconcilié avec Dieu, on sera des ambassadeurs efficaces. On sera des ambassadeurs du royaume, envoyés. Et voyez, cette église, elle témoignait pas qu'avec des mots finalement. Elle témoignait aussi avec des actes. Jésus nous disait dans Matthieu, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Des bonnes œuvres. Parce que l'église primitive, eh bien, elle annonçait la parole, certes, mais elle soignait aussi les malades, elle soutenait les pauvres, elle accueillait les étrangers. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun. Ça ne veut pas dire qu'il y en avait peut-être un ou deux et qu'on laissait passer. Non, la parole, elle est claire, il n'y en avait aucun. Zéro. Cette église, elle parlait du royaume, mais elle manifestait aussi ce royaume. Elle ne faisait pas qu'en parler. Elle le manifestait parce qu'il y avait de la compassion et parce qu'il y avait de la justice. Et aujourd'hui encore, notre témoignage, il sera crédible. Il sera vraiment crédible si nos paroles, elles sont accompagnées de vie, si elles sont accompagnées d'actes concrets. Cette église missionnaire, c'était une église qui était visible. Et nous, on veut que notre église, elle soit visible. On veut qu'elle serve. On veut qu'elle soit incarnée dans le quartier, dans la ville. Pas seulement qu'on soit un bâtiment comme ça au milieu d'une zone industrielle où on est complètement anonyme. Mais non, une église visible qui sert. Alors comment on fait concrètement pour vivre cette mission ? Premier point, c'est que on doit déjà prendre conscience qu'on est tous appelés. Tous. Il n'y a pas deux catégories. Il n'y a pas les missionnaires, il n'y a pas les apôtres, il n'y a pas... Pardon. Il y a tous. Là où Dieu t'a placé, tu es son témoin. Là où Dieu t'a placé, tu es un missionnaire. Dans ton travail, dans ton quartier, dans ta famille, avec les familles autour de toi. Ça, c'est ton champ missionnaire. Tu n'as pas besoin de partir à l'autre bout de la terre. Prendre conscience qu'on est tous appelés, et puis, chose pas évidente, oser témoigner de notre foi. Pas facile, ça. Hein ? Il ne s'agit pas de forcer, il ne s'agit pas d'être parfois des gens bizarres, des gens qui parlent un patois de Canaan un peu incompréhensible. Et parfois, c'est dur de sortir de ça aussi, parce qu'on a des habitudes et qu'on lit la parole et qu'on s'en imprègne et qu'on a envie d'être zélé. Mais simplement être prêt à parler de Jésus, à expliquer pourquoi on croit, simplement dire notre témoignage, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'écoute, de la gentillesse, de la bienveillance, être prêt à proposer la prière, pourquoi pas ? Même si ce n'est pas naturel vers quelqu'un qui est pas forcément habitué à ça. Mais si on le fait de manière totalement désintéressé, avec beaucoup de bienveillance, eh ben on va susciter des questions aussi. On va commencer à intéresser les gens. On dit, mais qu'est-ce qui te donne cette paix? Qu'est-ce qui te donne cette joie? Je comprends pas. Pourquoi tu es gentil avec moi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux mes sous? Non. Je veux juste t'aimer. parce qu'il y en a un qui m'aime. Je le connais personnellement, il s'appelle Jésus. Alors toi, tu le connais peut-être d'une manière différente, historique, que sais-je. Mais moi, je sais qu'il est vivant, qu'il vit en moi, et c'est la source de mon espérance. Voilà. Pas besoin d'en dire beaucoup plus, hein. Parce qu'après, je peux passer pour un mec bizarre, ouais. Je me suis fait avoir 2-3 fois, donc c'est pour ça. Pierre 3,15 nous dit « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » C'est ça aussi, cet appel qui est le nôtre. Avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance. Des gens qui... Pourquoi t'es... Regarde, c'est en train de partir en l'air, la boîte, là, c'est pas... T'as vu, ils t'envoient à Nantes, t'es à Lyon, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, je suis là où je dois être. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Et mon champ missionnaire, eh ben, c'est à Nantes. 3 jours par semaine. Pas grave. Parce que je sais que à Nantes, je vais rencontrer des gens qui auront besoin d'entendre une parole réconfortante, une parole de vie. Cette église visible, active, elle doit l'être et elle le sera dans la ville. Les retours des appels à projets ont été très riches. Merci Seigneur et merci à vous d'avoir joué le jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées. Organiser des actions sociales et concrètes, des repas pour les familles dans le besoin, accompagnement dans des formations, diverses actions de solidarité. Il y a plein de choses qui sont dans nos cœurs. Et on va en faire des belles choses. Parce que le cœur de Dieu et ce qu'il a mis en nous, ça ne peut pas rester lettre morte. Participer à la vie locale, s'impliquer dans des partenariats, il y a des tas de choses qui vont s'ouvrir. Y compris nos portes. Ouvrir nos portes, accueillir, créer du lien. C'est ça la vocation d'une église en mission. Comme l'église des Actes d'ailleurs, elle n'avait pas de bâtiment attitré, l'église des Actes. Hein. Mais elle se réunissait dans les maisons, elle se réunissait dans le temple à Jérusalem, tant qu'ils pouvaient encore le faire et que les autorités juives ne les ont pas exclus. Mais nos maisons doivent être ouvertes. Notre église, notre bâtiment d'église doit être ouvert. Et puis l'organisation a été très simple. Hein. Elle a été participative. Axé sur la vie communautaire, l'entraide, comme on l'a vu. Et puis chaque membre était encouragé à exercer ses dons. Il n'y avait pas d'exclusive. Les dons, ce n'est pas simplement celui qui porte le micro et qui délivre la bonne parole. Non, c'est chaque membre était encouragé à exercer ses dons pour édifier l'ensemble du corps de Christ. Et c'est à ça aussi qu'on veut travailler. À ce que chacun puisse se sentir soutenu, se sentir envoyé dans son appel. Parce qu'une église missionnaire, elle sert sa ville, elle sert son quartier, elle sert ses membres, évidemment, et puis elle amène la lumière. Elle amène la lumière. Et elle porte le nom de Jésus avec joie et avec simplicité. On porte tous le nom de Jésus, ce nom au-dessus de tout nom. Et puis, on peut être très local, mais ça ne suffit pas non plus. Parce que la parole nous dit que il y a des missions au loin. Et ben nous aussi, en fait, on a des missions des relations, des réseaux avec lesquels on fonctionne, avec le CNEF, avec RNC, avec tous ces organismes. Puis on a aussi des missionnaires qui partent à l'étranger. On a la chance d'avoir notre frère Gabi qui est dans l'Assemblée, qui a un appel aussi vers les églises lointaines. Et c'est important de prêcher la bonne nouvelle à l'extérieur de nos murs, plus loin. Parce que l'apôtre Paul le dit dans Romains 10, au verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Donc c'est un appel aussi à sortir de notre confort. Parce que frères et sœurs, c'est, je crois que c'est le plus grand obstacle à la mission, finalement, c'est souvent notre confort spirituel. On s'habitue au culte, on s'habitue aux bénédictions, on s'habitue à nos habitudes, mais Dieu, lui, il nous pousse à sortir. Il nous pousse à sortir et il y a urgence. Le monde a besoin de voir une église qui est vivante, une église qui est engagée, qui est audacieuse, qui témoigne, sans honte, sans crainte. Dans Proverbe 24:11, il est dit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger, sauve-les. » C'est aussi ça notre mission. Et parce que l'amour parfait bannit la crainte, et parce que l'amour parfait, c'est Jésus. Si on reste solidement ancré en lui, si on reste solidement accroché, attaché à lui, ben la crainte, elle va disparaître. Il n'y aura plus de crainte. Et on pourra vraiment entrer dans l'appel qui est le nôtre. Entrer dans cet appel. Frères et sœurs, Dieu nous appelle vraiment à devenir une église biblique, selon son cœur. Une église qui est centrée sur Christ. Une église qui est remplie du Saint-Esprit. Une église qui est une église fraternelle, unie, solidaire. Une église qui est envoyée en mission. Alors aujourd'hui, on peut prier. On peut prier pour une véritable fraternité dans notre assemblée. Seigneur, que chacun se sente soutenu, aimé, accompagné. On peut prier que notre Église sorte de ses murs, pour que nos cœurs y s'ouvrent vraiment aux âmes perdues, aux blessés, aux oubliés. On peut prier pour les besoins des membres de notre assemblée. Prier pour les malades, pour les endeuillés, les découragés, les familles en difficulté. Seigneur, tu vois toutes choses. Seigneur, tu agis. Et Seigneur, aide-nous à nous lever les uns pour les autres. Aide-nous à ce qu'on se lève. Seigneur, prions pour que tu agisses, que tu fasses de nous des témoins fidèles, que tu fasses de nous des serviteurs humbles, des porteurs de lumière. Seigneur, fais de nous une église vivante, fais de nous une église envoyée, fais de nous une église selon ton cœur, Seigneur Jésus. On puisse, si le groupe de louanges veut bien, chanter un dernier chant et qu'on puisse rester dans cette atmosphère de prière. Et que si quelqu'un dans l'assemblée a quelque chose à cœur, quelque chose qui a percuté en lui ce matin, une parole, un encouragement, qu'il n'hésite pas à s'avancer et qu'il puisse nous partager ce qu'il a sur le cœur. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, aide-nous à refléter cet amour. Aide-nous à être ses ambassadeurs, Seigneur, pour ta gloire.